Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Il était d'usage, il y a quelques années encore, de décréter dans nos médias que la question de la nation appartenait pour de bon au siècle passé et qu'elle ne devait plus aujourd'hui nous hanter. Manifestement, ceux qui décrétaient cela se trompaient. Du Brexit au référendum catalan, en passant par la laïcité québécoise et les populismes européens, partout la question nationale s'impose aujourd'hui et elle ne semble pas à la veille de s'effacer. Qu'est-ce qui se joue à travers elle? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le philosophe Pierre Manan, qui l'a placé depuis longtemps au cœur de sa réflexion. Pierre Manan, bonjour.
Bonjour Mathieu, Bock-Côté.
Alors, une petite question toute simple, en quelque sorte, pour rentrer dans le cœur, avant d'entrer dans le cœur du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de la redécouverte de la question nationale, de la redécouverte de la nation. Mais pour la redécouvrir, d'abord et avant tout, on doit se rappeler comment nous en avons perdu la trace pendant un certain temps. Donc, si on cherchait à retrouver les origines de cet oubli, les origines de cette disparition intellectuelle ou politique au cours des dernières décennies, quelles pistes devrions-nous suivre? Comment comprendre le fait que la nation ait disparu du radar pendant un bon moment?
Il faut d'abord remarquer, je crois, que la nation n'a pas disparu partout. Elle a disparu en Europe et pour partie en Amérique du Nord ou dans une partie de l'Amérique du Nord. Donc c'est un phénomène, on peut dire européen ou occidental, qui a deux, au moins deux origines. La première origine est une origine, pour ainsi dire, négative. La leçon tirée des grandes guerres du XXe siècle, et non seulement des grandes guerres, mais des immenses crimes du XXe siècle, a conduit à cette idée simple et je crois fausse, mais enfin à cette idée qui s'est emparée des imaginations, que la responsable des malheurs du XXe siècle, c'était la forme nationale. Donc, la leçon que pour une partie, qu'une partie de la classe, comment dire, dirigeante des pays d'Europe a tirée du XXe siècle, c'est que la nation était chose dangereuse, que la nation c'était le nationalisme et le nationalisme c'était la guerre et les pires choses. Donc, nous avons cru devoir tirer de l'expérience du XXe siècle cette leçon du danger de la nation et donc la conséquence positive en étant qu'il fallait se construire sur d'autres bases que les bases nationales. Et l'autre aspect qui est lié au premier, mais qui en est aussi indépendant, c'est que d'une certaine façon, depuis la fin du XVIIIe siècle, le grand principe de légitimité de l'Occident, pourrait-on dire un peu emphatiquement, ce sont les droits de l'homme. Et ces droits de l'homme qui ont toujours été mêlés à d'autres principes au XIXe siècle et au premier XXe siècle, dans la dernière période, on fournit en quelque sorte la seule base de légitimité de nos vies collectives. Donc voilà, vous avez posé une question vaste et complexe, je donne une réponse simple, mais je crois que ces deux aspects sont essentiels. Donc la leçon que l'on a voulu tirer du XXe siècle et ce principe de légitimité, les droits de l'homme, qui est devenu principe exclusif.
Alors, vous évoquez le XXe siècle en montrant effectivement que la représentation que nous nous sommes fait du nationalisme ou de la nation. Pour plusieurs, c'était la nation, le nationalisme, c'est la guerre. Je crois que la formule est de Mitterrand. Pourtant, quand on pense à Churchill, quand on pense à De Gaulle, quand on pense aux différentes résistances en Europe de l'Est contre l'Union soviétique, ce n'est pas seulement au nom des droits de l'homme, me semble-t-il, qu'on a résisté au totalitarisme, mais c'est aussi au nom d'un patriotisme très exigeant qui, aujourd'hui, serait probablement jugé antidémocratique, paradoxalement. Donc, comment avons-nous pu oublier le fait que le nationalisme, dans un sens non pas restrictif, dans un sens large, que le nationalisme ou le patriotisme, la nation, ont contribué aussi, paradoxalement, à défendre la démocratie et la nation? Comment avons-nous pu oublier cela, alors que ça fait aussi partie de l'histoire du XXe siècle?
Ça, je n'ai pas de réponse. Le fait est que nous l'avons oublié, nous avons voulu l'oublier. Nous allons voulu l'oublier. Donc, c'est un fait dont nous devons partir. Et attention, je ne suis pas sûr que nous ne l'ayons, comment dire, que cet oubli, nous en soyons sortis. Aujourd'hui, nous retrouvons la nation, en effet, sous une forme défensive, c'est-à-dire que certains effets de la mondialisation nous amènent à regarder avec d'autres yeux nos vieilles nations. Mais est-ce que cette reconsidération du problème, est-ce que cette sympathie retrouvée pour la forme nationale, aura des effets politiques durables, profonds et positifs sous la forme d'un engagement civique dans le cadre national, sous la forme d'un dévouement à la nation, sous la forme de grands objectifs attribués à la nation? Bref, si ce retour de sympathie, ce retour d'affection pour la nation sera véritablement au principe d'entreprise politique positive. Cela, nous ne le savons pas encore.
Alors, la nation est réapparue dans le paysage politique et intellectuel depuis, on pourrait dire peut-être, le début des années 2000. Je pense ici au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, mais on pourrait probablement retourner jusqu'aux années 90. La nation est réapparue, vous l'avez dit, sous une forme défensive. Peut-être d'abord à travers ce qu'on a appelé les fameux populismes, hein, les populismes qui étaient peut-être des mécanismes de défense des nations qui voulaient rappeler leur existence, peut-être de manière maladroite, mais c'est autre chose. Ensuite, il y a le référendum de 2005 en France qui a une portée symbolique importante. Est-ce qu'on peut dire que la nation n'a jamais accepté, en quelque sorte, de se laisser déconstruire, que le discours public dominant la délégitimait, mais que le corps social ou le corps politique lui-même cherchait à rappeler son existence de différentes manières?
Oui, certainement. Le corps social voulait rappeler son existence, mais ce qui est frappant, c'est que c'est sous ces formes populistes, alors n'entrons pas dans le débat sur les mérites du terme, c'est sous cette forme populiste, c'est-à-dire très largement affective, en quelque sorte, que la nation est revenue, parce que ce qui manque au mouvement populiste, d'une certaine façon, c'est un langage, c'est une capacité à se dire dans l'espace public, à faire entrer la nation dans la conversation civique. Le populisme fait revenir la nation dans la conversation civique, mais sous la forme d'une protestation souvent véhémente et d'une protestation qui ne sait pas, comment dire, qui n'a pas su encore s'insérer positivement dans la conversation civique européenne. Et nous n'en sommes pas véritablement sortis. Aujourd'hui encore, tout de même, voyez en France le président Macron, qui est quand même, comment dire, une des figures les plus frappantes, les plus vigoureuses, quoi qu'on pense par ailleurs de sa politique, les plus neuves de la politique européenne. Eh bien, il continue absolument à jouer sur l'opposition Europe-Nation, sur l'équivalence nation-frontière-nationalisme, et il compte bien gagner la prochaine élection sur cette plateforme, n'est-ce pas? Donc, je ne pense pas que nous soyons véritablement sortis de cette cette hémiplégie de nos politiques où les classes dirigeantes ne retrouvent pas les voies de la nation, ne savent pas véritablement reprendre leur caractère de représentation nationale, en quelque sorte, comme on dit en France, et le populisme, reste en possession d'une part électorale assez considérable, du gâteau électoral, si je peux dire, mais là non plus, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, il est véritablement reconfiguré la politique des nations européennes.
Alors, vous avez évoqué la figure de l'Europe, et c'est très important. Dans vos travaux, vous distinguez trois formes politiques, peut-être davantage, mais j'en ai trois en tête, la cité, la nation et l'empire. Et vous nous dites que la nation donc, est une forme politique à part entière, c'est probablement la forme politique privilégiée de la modernité, mais la figure de l'empire, on avait tendance à la croire disparue. Dans le souvenir collectif, l'empire, c'est soit l'empire austro-hongrois, soit c'est des empires, on pense à l'empire russe, ou alors c'est les empires européens qui ont débordé les frontières de l'Europe. Mais la figure de l'empire, on y fait rarement référence positivement. Or, est-ce que l'Europe, donc l'Union européenne telle qu'elle s'est constituée, est-ce que l'Union européenne fait réapparaître la figure de l'empire, donc en figure contrastée par rapport à la nation? Est-ce que l'Union européenne est le nouveau visage de l'empire dans nos sociétés, à tout le moins dans l'histoire de la démocratie européenne?
Ah, c'est une idée qui, a couru dans la dernière période, l'Europe comme le dernier empire en quelque sorte, l'empire de la fin de l'histoire. Je ne suis pas très convaincu par cette thèse. Si l'on observe la façon dont l'Europe s'est construite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les nations, en réalité, sont au fondement de la construction européenne. La base de départ, c'est, la décision de la France et de l'Allemagne de se réconcilier sérieusement et définitivement, et à partir de ce noyau franco-allemand, en y joignant bien sûr l'Italie et le Benelux, d'agréger autour de ce noyau progressivement les nations européennes. Alors, bien entendu, cette agrégation des nations autour du Rhin, autour de la réconciliation franco-allemande, à partir d'un certain moment, a pris son indépendance par rapport aux nations, et évidemment, l'Union européenne est devenue cette entreprise bureaucratique, idéologique, spirituelle, pourrait-on dire, à laquelle nous avons affaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que jamais vous ne pouvez pas voir en Europe le principe de l'empire, n'est-ce pas? Ou alors, c'est un empire idéologique. Parce que, et c'est l'idéologie des droits de l'homme, parce qu'en réalité, la vérité des nations, la vérité de l'Europe aujourd'hui, c'est une certaine configuration des nations européennes. Et ce qui fait tenir l'Europe ensemble aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'hégémonie allemande, n'est-ce pas ? Bon, l'Europe n'existerait pas sans ce centre de gravité allemand, cette hégémonie allemande qui, en gros, est accepté par une masse critique des nations européennes comme finalement la seule façon de faire tenir ensemble précisément ce groupement de nations. Donc, encore une fois, l'Europe ne nous fait pas sortir du règne des nations, elle les délégitime, mais ce qui la tient politiquement, c'est un dispositif hégémonique d'une nation parmi les nations européennes, et cette hégémone, c'est l'Allemagne. Donc, alors, vous me direz que je n'ai pas répondu directement à votre question. J'ai répondu d'une certaine façon en essayant d'expliquer que non, l'Europe n'était pas un empire, sauf, encore une fois, sous l'angle, peut-être, sous l'idéologie qu'elle se donne, n'est-ce pas, le noyau expansif de la réconciliation de l'humanité autour des droits de l'homme. Bon, là, il y a cette composante idéologique certaine, mais du point de vue de sa colonne vertébrale politique, c'est un certain dispositif national, n'est-ce pas ? Ça, il ne faut pas l'oublier. L'Europe tient ensemble, non pas par la Commission de Bruxelles, n'est-ce pas, qui est une sorte de décor extrêmement irritant, mais ça reste un décor. Mais ce qui est solide, c'est l'hégémonie allemande.
Alors, je reviens un instant sur l'Europe. Il y a aujourd'hui certains, ou à tout le moins c'est un discours qu'on entend assez souvent, qu'il y a presque deux Europes aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire d'un côté l'Europe occidentale qui néanmoins, à tout le moins sur le plan du discours et de l'idéologie, semble se reconnaître dans une espèce de discours post-national, un discours qui prétend transcender les nations, non pas les abolir, mais à tout le moins les transcender, les dépasser. Et de l'autre côté, une Europe plus à l'Est qui, elle, serait davantage accrochée à la forme classique de l'État-nation, donc, et même dans la définition même de la nation, pas seulement par des valeurs, mais davantage par la culture, pas simplement par une prétention à l'universel, mais aussi par une identité particulière. Est-ce que vous acceptez cette idée qu'il y a aujourd'hui en Europe deux conceptions de l'Europe qui s'affrontent et à travers ça peut-être deux conceptions de la nation?
Oui. Comment dire? Évidemment, on est bien obligé d'observer que les nations de l'Europe du centre-est, n'est-ce pas, Pologne, Hongrie, à moindre degré Tchéquie, mais enfin, en effet, ces nations ont un rapport à elles-mêmes qui est différent du rapport que les nations occidentales ou les nations de l'ouest de l'Europe ont à l'égard d'elles-mêmes. Bon, il est facile d'observer que ces nations ont une histoire très différente de celle des nations de l'ouest. La Hongrie amputée des deux tiers de son territoire, de sa population après la Première Guerre mondiale, la Pologne qui n'avait retrouvé son indépendance après la Première Guerre mondiale que pour la perdre en 1939. Bon, tout cela est vrai. Donc, des histoires différentes font un rapport différent à la forme nationale et, comme cela a été remarqué, les nations qui venaient de retrouver leur être avec la chute du communisme, Pologne, Hongrie, Tchéquie, n'allaient pas, en quelque sorte, la reperdre immédiatement en se fondant dans l'idéologie européenne, même si, évidemment, ça aurait été une perte différente de celle qu'elles avaient subie dans le cadre du bloc communiste. Tout cela est vrai. En même temps, nous sommes des nations de même forme, n'est-ce pas ? Nous sommes partagés, et les pays de l'Europe de l'Est aussi sont partagés entre deux perspectives sur leur être social, entre la perspective que l'on dira celle des droits de l'homme, des droits individuels, de l'émancipation, et l'attachement à une forme de vie propre à cette nation. Alors, cela prend des formes beaucoup plus explicites, vigoureuses, parfois provocatrices, en Pologne ou en Hongrie, mais c'est aussi présent en France. Alors, vous voyez, la Pologne est très divisée politiquement entre, je dirais, la moitié libérale et la moitié conservatrice, n'est-ce pas, de l'électorat. Bon, donc, je ne pense pas que les pays de l'Union, de l'Europe de l'Est, en quelque sorte, quittent véritablement l'Europe, même moralement, ils tiennent absolument à l'ancrage européen, mais précisément, pour eux, l'Europe, c'est le cadre dans lequel ils peuvent retrouver leur vie nationale, d'où leur relation très conflictuelle avec l'Union européenne, mais aussi leur attachement à l'Union européenne. Et de même, nous-mêmes, nous ne pouvons pas complètement les exclure du cercle de la raison et du cercle disons des nations européennes, parce que nous sentons aussi chez nous, il y a aussi chez nous, sous une forme assez différente, mais l'attachement renouvelé à une vie propre. Donc, d'une certaine façon, la division de l'Europe en Europe de l'Est attachée à ses traditions nationales et très hostile à l'immigration musulmane, et l'Europe de l'Ouest qui n'a pas une même attitude sur ces sujets-là, eh bien, ce sont quand même les mêmes dynamiques sociales et morales qui se jouent, parce que cette dualité, elle appartient à l'être même de nos nations prises séparément et de l'ensemble européen pris comme un tout, n'est-ce pas ? Nous devons faire vivre ensemble, tisser ensemble. En effet, de plus en plus, certains pourraient dire, et il m'arrive de dire, exagérer ou illimiter les droits individuels, et en même temps, un attachement tout de même très répandu, encore une fois, sous des formes différentes dans les différents pays, un attachement très répandu à ce qu'on peut appeler notre vie propre, la façon que nous avons de conduire une éducation commune dans chaque pays. Ces problèmes-là sont partagés par tous les pays européens.
Alors j'aimerais justement vous conduire sur cette question de ce que vous appelez la vie propre ou la forme de vie. Alors quand on parle de la nation aujourd'hui, et nous y arriverons bientôt sur la question de la souveraineté directement, on pense à la souveraineté, mais l'autre pôle pour parler de la nation, c'est souvent le fameux thème de l'identité. Or, est-ce que nos nations n'ont pas aujourd'hui, ne peinent pas à trouver un langage pour nommer ce qu'on pourrait appeler le particulier, le singulier? Quand on veut parler de la nation, on va parler des valeurs universelles, des valeurs de la République, de l'état de droit, de la démocratie, de la justice, de la liberté, des valeurs tout à fait honorables, mais qui ne distinguent pas une nation d'une autre, à tout le moins dans l'univers occidental, à tout le moins dans leur interprétation. Oui, mais ces principes-là, en tant que tels, non. Est-ce que nos sociétés peinent aujourd'hui à nommer ce qu'on pourrait appeler leur singularité, leur caractère irréductible, ce qu'on pourrait peut-être appeler leur culture propre, ce que vous appelez peut-être leur forme de vie? Est-ce que nous peinons aujourd'hui à nommer ce qui distingue, je dirais, chaque nation de sa voisine?
Oui, nous comment... C'est-à-dire, le problème du... de l'identité, ce qui ne va pas avec le langage de l'identité, selon moi, c'est que il formule sous d'une façon abstraite, et quel mot plus abstrait que le mot identité, ce qui est le plus concret, n'est-ce pas? Ce qui est le plus concret. Donc, si vous commencez à dire défendons notre identité, immédiatement, vous faites passer dans l'abstrait cette notion, vous l'idéologisez et vous ne pouvez plus en faire grand-chose, n'est-ce pas ? Donc, auparavant, jusqu'à une date récente, bon, tout le monde savait bien que nous avions des régimes démocratiques en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, mais que évidemment ces régimes, ces institutions avaient un esprit très différent, fonctionnaient de façon très différente. Mais la question de l'identité ne se posait pas, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Ben parce que de toute façon, c'était un même effort dans chaque pays pour faire fonctionner une certaine communauté de citoyens. Donc, il y avait cette chose commune qui était le gouvernement représentatif, et donc cela c'était la composante, si j'ose dire, universelle, et puis évidemment, chacun procédait à sa façon. Et donc, en ce sens, il n'y avait pas de tension particulière entre l'universel et le particulier, parce que le particulier, c'était une façon particulière précisément de mettre en œuvre une vocation universelle, une finalité universelle, qui était la construction d'une démocratie représentative ou d'une république représentative. Mais aujourd'hui, nous avons renoncé à la république représentative parce que nous n'avons plus comme horizon de construire une république représentative. Nous parlons des valeurs de la République, mais les valeurs de la République, c'est ce qui reste de la République quand on a enlevé la République, n'est-ce pas ? Parce que la République, c'est un gouvernement représentatif. Donc, c'est une action commune. Or, encore une fois, aujourd'hui, depuis 20-30 ans, nous y avons renoncé, puisque la République ne se donne plus comme horizon, en fait, comme horizon, comment dire, idéologique, spirituel, comme on voudrait, intellectuel, moral. Elle ne se donne plus comme horizon que de garantir les droits individuels et d'être l'abri des vies privées, l'abri, le protecteur des vies privées, du droit de chacun à définir sa vie comme il l'entend. Donc, il n'y a plus d'horizon universel. Je veux dire, il n'y a plus de construction politique. Ce n'est plus l'animal politique qui est mobilisé. Et donc, nous nous trouvons l'universel et le particulier séparés, ou plus exactement, le seul universel que nous connaissions maintenant, ce n'est plus l'animal politique, mais c'est l'individu titulaire de droit. Et c'est à cause de cela que le politique, la nation politique, est devenu le particulier dont on ne sait que faire, ou l'identité dont on ne sait que faire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
Vous êtes tout à fait clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, si je vous comprends bien, Pierre Manant, l'individu déclasse le citoyen, les droits individuels effacent complètement la souveraineté populaire, effacent le corps politique qui n'existe plus qu'à la manière d'une entité dispersée, d'une entité éclatée, d'individus qui convertissent chacun de leurs désirs en droits, leurs droits en droits fondamentaux, ce qui fait en sorte qu'en dernière instance, il n'y a plus de lien politique substantiel, la communauté politique n'est plus capable de s'apercevoir, et tout ce que nous avons en commun, finalement, c'est la défense jalouse de nos droits individuels. Est-ce qu'en dernière instance, nous ne sommes pas condamnés à travers cela à l'impuissance politique ?
Je veux dire, l'universel et le particulier s'accordent sans difficulté lorsque l'universel est actif, n'est-ce pas ? Il s'agit de construire une cité, une nation, et donc vocation universelle, l'animal politique, mais évidemment, à chaque fois, ça prend une forme particulière, parce que c'est un groupe particulier qui construit à sa façon, qui s'inscrit dans cet horizon universel. Mais quand on a perdu l'idée de cette construction collective, lorsqu'on a perdu l'idée du citoyen, alors il ne reste plus que un groupe particulier dont on ne sait que faire, parce qu'il n'est plus la base de la construction politique. Et le peuple populiste, c'est un peuple qui n'a plus, en quelque sorte, qui ne sait plus comment se formuler politiquement, et donc qui en est réduit à dire on est chez nous, on a bien le droit d'être chez nous, et évidemment c'est une parole politiquement très pauvre.
Je voulais vous conduire sur un autre, l'autre pôle, le pôle de, on a touché celui de l'identité. Un autre pôle qui lui a touché directement l'actualité relativement récente des sociétés européennes, c'est celui du statut de l'État-nation, le pôle de la souveraineté. Et j'aimerais vous présenter deux événements que les Européens ont tendance, me semble-t-il, à présenter comme des événements contradictoires et que d'un point de vue québécois, on peut peut-être penser sous une même lumière. Je pense évidemment au référendum catalan et au Brexit. Alors, le Brexit, c'est une volonté de redonner sa pleine indépendance à une nation qui s'était engagée dans un processus supranational ou post-national, refaire de la souveraineté nationale le principe qui commande l'État. Référendum catalan, c'est la volonté de constituer une nation qui ne disposait pas encore d'un plein État en État indépendant. Et ça a échoué, par ailleurs. On pourrait voir la même chose en Écosse aussi. En Europe, on a tendance à voir d'un côté le souverainisme britannique comme une forme de la figure du Brexit, hein, c'est-à-dire retour à l'État-nation, et à réduire un phénomène comme celui de la Catalogne à un régionalisme, ou celui de l'Écosse aussi. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que les phénomènes, celui du Brexit et le référendum catalan, participent à au même univers national, ou est-ce que vous les distinguez, au même imaginaire de la nation, ou est-ce que vous les distinguez dans deux catégories peut-être irréconciliables?
Ah, ça c'est je ne sais pas bien répondre à votre question. En un sens, évidemment, ce sont des phénomènes opposés, puisque dans un des cas, le cas du Brexit, c'est une vieille nation qui veut retrouver son indépendance, qu'elle avait pour partie abandonnée dans son adhésion par son adhésion à l'Union européenne, tandis que dans le cas de la Catalogne, c'est la vieille nation espagnole qui se rompt d'une certaine façon ou qui menace de se rompre. En ce sens, évidemment, les deux mouvements pourraient être dits opposés. D'autre part, en effet, ce qu'il y a en revanche de commun, c'est que dans les deux cas, on voit bien que le lien que l'on ne peut pas distendre indéfiniment entre une communauté politique et une communauté de culture, n'est-ce pas, une communauté de culture quand même, parce que l'idée tout de même d'un gouvernement en quelque sorte détaché, entièrement détaché d'une communauté de culture, tend à échouer nécessairement. Les Catalans ont été très choqués par la réaction de l'Union européenne à leur mouvement, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, toutes sortes d'explications sont faciles à donner. L'Union européenne redoutait un moment où, en quelque sorte, chaque nation serait mise en cause par des mouvements régionalistes qui rendraient la politique européenne absolument impossible à conduire, et que donc, en ce sens, l'Union européenne était conservatrice des vieilles nations pour des raisons de pratique ou d'administration, en quelque sorte. Mais aussi, je pense, ce qu'elle n'a pas aimé, c'est ce désir d'avoir un gouvernement proche de soi, parce que d'une certaine façon, évidemment, la Catalogne affaiblit la nation espagnole, ou la sécession catalane affaiblit la nation espagnole, et délégitime la nation espagnole, et on pourrait penser que ça donc légitime l'Europe, mais d'une certaine façon, ça délégitime encore plus, en un certain sens, l'Union européenne, parce que, évidemment, c'est une machine de gouvernement, ou c'est une machine à prétention gouvernementale, qui est infiniment éloignée de la vie des nations qu'elle prétend régenter. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est un peu dans cette direction que vous vouliez aller. En effet, le mouvement catalan et le mouvement du Brexit peuvent être rapprochés.
Alors, nous nous rapprochons de la fin de cette émission. J'aimerais reprendre une formule que vous avez glissée dans la conversation, qui est plutôt la notion de religion de l'humanité. Vos lecteurs savent que vous avez, c'est une formule qui revient de temps en temps dans votre œuvre, pour, à travers laquelle vous nommez peut-être la tentation de la désincarnation du lien politique, une incapacité à penser la différence entre les communautés nationales, les frontières légitimes. Aujourd'hui, la question de la fameuse religion de l'humanité se pose dans le contexte des mouvements migratoires, de l'immigration massive et ainsi de suite. Dans quelle mesure une nation peut-elle assurer sa continuité historique? Dans quelle mesure doit-elle s'ouvrir? Et dans un échange récemment à l'émission Réplique, vous repreniez cette idée comme quoi si la charité est une chose, on ne saurait en faire, si je comprends bien, le seul principe qui commande l'ordre politique. Que pour ouvrir des frontières encore, faut-il avoir des frontières? Que pour s'ouvrir à l'autre encore, doit-on savoir qui on est soi-même? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, justement, est-ce que cette religion de l'humanité que vous évoquez, est-ce qu'elle n'est pas en train de dévorer la possibilité même de l'existence politique des peuples? Est-ce que c'est la possibilité même pour les peuples de nommer leur situation, de nommer leur histoire, de nommer leur réalité, de nommer leurs frontières, de distinguer qui en sont membres et qui n'en sont pas membres? Est-ce que cette religion de l'humanité aujourd'hui n'est pas en train de, à la manière d'une forme de principe incapacitant, de rendre impossible de nommer, de voir les peuples et d'agir en leur nom?
Oui, je crois que c'est une excellente formule, principe incapacitant. Il faut préciser, principe incapacitant pour les pays européens. Parce que les autres parties du monde ne nous suivent pas ou ne nous imitent pas dans cette religion de l'humanité. Voyez, cette idée, au fond, en quoi elle consiste, cette religion de l'humanité? Elle consiste à dire que toutes les divisions de l'humanité sont arbitraires, elles conduisent à la haine, à la xénophobie, au pire, elles conduisent à la guerre, alors que sous ces divisions à la fois superficielles mais toxiques, il y a une humanité naturellement unie par le sentiment du semblable. Il suffit de nous regarder les uns les autres, mesurer ce que nous avons de commun et, en quelque sorte, aller vers un effacement de toutes les frontières et de tout ce qui sépare les hommes. Bon, c'est une représentation qui a quelque chose de tentant, en effet, nous sommes des semblables, et en effet, il est assez agréable de retrouver son semblable dans celui que l'on rencontre. C'est un sentiment humain tout à fait honorable et plaisant. Simplement, c'est un sentiment qui ne permet de rien faire, qui ne permet de rien construire, n'est-ce pas? Parce que à partir du moment où vous faites quelque chose, que ce soit dans une nation ou en tant que nation, eh bien, vous constituez une communauté particulière par la chose même qu'elle fait, non pas parce qu'elle se considérerait nécessairement supérieure, extraordinaire, et considérerait l'autre comme quelqu'un d'intouchable, n'est-ce pas? Mais simplement, nécessairement, on se sépare des autres pour faire quelque chose avec quelques-uns. C'est ça le principe de la vie sociale, n'est-ce pas? Alors que ce soit à l'intérieur d'une nation ou que ce soit une nation en tant que telle. Donc, si on suit l'idée de la religion de l'humanité, eh bien, effectivement, nous ne pourrons plus rien faire parce que nécessairement, dès lors que l'on fait quelque chose, encore une fois, on se sépare dans une certaine mesure. Et alors, la seule chose qu'on peut faire, si, c'est évidemment d'ouvrir nos frontières et de dire aux autres, bien faites comme chez vous, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas ouvert un avenir très riant ni aux pays à qui on dit ouvrez-vous, ni d'ailleurs à ceux à qui on dit entrez, faites comme chez vous, parce que ce pays ne va pas être viable, n'est-ce pas? Parce que c'est un pays qui a renoncé à être une communauté d'action et d'éducation, n'est-ce pas? Si vous êtes une communauté d'action et d'éducation, nécessairement, vous avez d'une façon ou d'une autre des frontières, parce que vous êtes distinct de ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté d'action et d'éducation. Et les frontières, c'est ce qu'a produit finalement le frottement, parfois un peu vigoureux, on le sait bien, mais le frottement entre des communautés d'action. Et notre humanité, enfin, la vie humaine est une vie d'action. C'est ainsi seulement qu'elle est une vie sociale. N'est-ce pas? Parce que nous produisons des choses communes. Et nous produisons des choses communes qui sont modestes comme, je ne sais pas, le pain et le lait, n'est-ce pas? Mais nous produisons des choses communes aussi sous la forme de l'éducation morale, sous la forme des grandes œuvres de l'esprit. Et cela suppose cet effort pour produire une condensation d'humanité en quelque sorte. Et comment dire, l'humanité, si vous regardez le spectacle de l'histoire humaine, vous voyez, n'est-ce pas, les nations, les religions, les grandes entreprises, les grands mouvements artistiques ou spirituels, eh bien, ce sont des mouvements à la fois de création et de séparation. Et vous n'avez pas la création s'il n'y a pas la séparation. Donc, cette religion de l'humanité, oui, votre formule me paraît excellente. C'est un principe incapacitant, mais j'ajoute en tant qu'Européen et avec tristesse, un principe incapacitant pour l'Europe. Et l'on voit aujourd'hui que l'Europe est, je crois, pratiquement le seul grand ensemble humain qui a renoncé à avoir des moyens de défense, n'est-ce pas? Il croit tellement à sa religion de l'humanité qu'il pense qu'il n'a pas besoin, cet ensemble européen, qu'il n'a pas besoin de produire ses propres moyens de défense. Je crains que nous n'ayons l'occasion, proche ou plus lointaine, de regretter vivement notre adhésion à cette religion de l'humanité.
Alors, je ne voudrais pas que nous nous quittions sur une note aussi sombre. Alors, et sans pour autant vous transformer en ministre ou en conseiller de ministre, j'aimerais vous demander, dans la mesure où vous croyez que le principe, le cadre national est non seulement légitime, mais appréciable en quelque sorte, à quelles conditions intellectuelles, peut-on dire, pourrait-on, aujourd'hui, demain, après-demain, renouer avec le cadre national et surtout en lui redonnant la légitimité et la substance nécessaire pour qu'il soit capable de peser à nouveau en Europe, et je me permettrais d'ajouter aussi peut-être en Amérique du Nord ou à tout le moins au Québec, Mais à quelles conditions, autrement dit, la nation peut-elle renouer avec un autre destin qu'un triste destin folklorique? À quelles conditions peut-elle renouer avec une capacité d'action dans l'histoire?
Ben précisément, votre question contient la réponse, capacité d'action. Nous voyons bien avec les difficultés liées à la pandémie, en particulier en France, on découvre que bon, nous avons renoncé à avoir en nous-mêmes certaines ressources nécessaires à l'action. Nous observons que l'Union européenne, cette grosse machine, n'a pas été particulièrement brillante dans l'organisation de dans la fourniture des vaccins aux différents pays européens, et que d'autres pays beaucoup plus, d'autres nations beaucoup plus agiles, comme déjà le Royaume-Uni ou Israël ou les États-Unis d'Amérique, ont montré beaucoup plus de capacité d'action, n'est-ce pas? Et donc, je crois que nous pouvons redécouvrir le fait que finalement, nos vieilles nations ne sont plus des êtres passifs qui seraient un cadre de notre vie passive, de notre vie de loisir en quelque sorte, nos paysages, la façon de se nourrir, de se vêtir, d'écouter de la musique, bien, mais que ce cadre de notre vie, cette forme de notre vie, comme j'aime à dire, est aussi le cadre de notre action. Et alors, regarder l'Union européenne non pas comme une nouvelle comment dire, une nouvelle forme politique, un nouvel empire ou une nouvelle religion, mais comme le lieu de collaboration de nations qui chacune serait active pour elle-même et s'accorderait le droit d'être active pour elle-même, donc d'être dans une large mesure souveraine, de décider des conditions de son action. Alors, ça introduirait, ça raviverait une certaine rivalité entre les nations européennes, mais cette rivalité, elle est toujours là, n'est-ce pas? Nous passons notre temps à nous comparer. Les Français passent leur temps, n'est-ce pas? Et se morfondent à se comparer avec l'Allemagne, et ils ont toujours tendance à trouver que les Allemands font mieux, beaucoup mieux qu'eux-mêmes. Bon, donc nous sommes nous n'avons pas quitté le rivage des rivalités nationales, donc acceptons ces rivalités nationales, mais faisons-en un principe d'action. Et donc, nous n'allons pas nous refaire la guerre, même si nous reprenons notre indépendance les uns par rapport aux autres, et interprétons la construction européenne, non pas, encore une fois, comme la construction d'un dépassement de la nation, mais comme le cadre de la collaboration, toujours nécessairement teintée de rivalité, entre les nations européennes. Donc, visons à une action commune des nations européennes, au lieu de construire cette énorme machine administrative et bureaucratique dont personne n'est content, dont tout le monde se plaint, y compris les gouvernements nationaux. Donc, voilà, c'est dans cette direction que je crois nous pouvons aller. Ça ne nous oblige pas à tourner le dos à l'idée européenne ou à un horizon européen. Nous partageons assurément une civilisation commune. Ça, les pays européens partagent une civilisation commune. À eux de en quelque sorte de redonner couleur à cette civilisation commune, à ne pas la laisser s'affadir et à ne plus se donner comme chose commune que les droits humains illimité, parce que cela, précisément, par définition, ce n'est pas propre à l'Europe. Donc, la République, ce ne sont pas les valeurs de la République. Les valeurs de l'Europe, ce n'est pas l'Europe. Donc, voilà, retrouvons la vraie vie de l'Europe, qui est la base nationale, dans un horizon, comment dire, réconcilié, mais dans un horizon où les nations jouent pleinement leur rôle.
Alors Pierre Malan, je me permets de redonner le titre de quelques-uns de vos livres, La raison des nations, Situation de la France, mais les métamorphoses de la cité, Enquête sur la démocratie. Je me permets de donner un titre particulier, Le regard politique, qui est un livre d'entretien qui est très beau, un de vos livres que j'aime beaucoup. C'était un immense plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Merci encore.
Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup.
Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à La Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bocoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.